Charles et Mary Lamb, conte tiré de Shakespeare, Macbeth. Sous le règne de Duncan le Débonnaire, roi d'Écosse, vivait un puissant seigneur nommé Macbeth, très proche parent du monarque et fort estimé à la cour pour sa vaillante conduite sur les champs de bataille, où il avait notamment défait toute une armée de rebelles qu'assistaient de nombreuses et terribles troupes de Norvège. Le jour même où Macbeth et son compagnon d'armes, le général Banquo, revenaient victorieux de cette brillante expédition, il leur fallut passer par un champ de bruyères incendiées. Tout à coup, se présentèrent à eux trois personnages ressemblant à des femmes, mais à qui une barbe inculte, un accoutrement sauvage et une peau ridée comme de vieux parchemins donnaient une apparence fantastique. Macbeth leur adressa le premier la parole, ce qui parut grandement leur déplaire. Chacune de ces bizarres créatures posa un doigt décharné sur des lèvres plus que flétries. « Salut, Macbeth !» dit alors l'une d'elles. « Salut, seigneur de Glamis !» Grande fut la surprise du général de se voir connu de ses mégères. Mais plus profond encore fut son étonnement quand il entendit la seconde l'appeler « seigneur de Cawdor », titre auquel il n'avait aucune prétention, et la troisième s'écriait « Dieu te garde, roi de l'avenir !» Une pareille prophétie était bien faite, en vérité, pour confondre tous ses esprits. Il savait, de reste, que tant que vivaient les fils de Duncan, il n'y avait pour lui, Macbeth, aucune perspective de parvenir au trône. Les mystérieuses figures se tournèrent alors vers Banquo. « Tu es moins que Macbeth, lui dirent-elles dans leur langage énigmatique, et cependant tu es plus grand que lui. Tu es moins fortuné, et cependant plus heureux. Jamais tu ne règneras. Mais quand tu ne seras plus, tes fils seront rois d'Écosse. » Et comme un nuage au souffle du vent, les prophétesses disparurent. Les deux guerriers comprirent alors qu'ils avaient eu affaire aux trois sœurs en magie, connues sous le nom de sorcières. Ils étaient encore là, cloués sur place par l'étrangeté de cette scène, quand arrivèrent des messagers royaux chargés de conférer à Macbeth la dignité de seigneur de Cawdor. Celui-ci resta muet de stupeur devant la merveilleuse coïncidence de cet événement avec la prédiction qu'il venait d'entendre, et tout aussitôt il sentit germer en son âme l'espoir de voir se vérifier de même la prophétie lui annonçant qu'un jour il régnerait sur l'Écosse. « N'espères-tu pas, dit-il à Banquo, que tes fils seront rois, maintenant que se réalise si singulièrement la promesse de ces filles d'enfer ?» « J'avoue, répondit Banquo, qu'il y a de quoi surexciter votre soif du trône. Rappelez-vous cependant que ces suppôts de ténèbres nous disent parfois quelques légères vérités pour nous entraîner à des actes de la plus grave conséquence. » Mais déjà l'âme de Macbeth s'était trop imprégnée des suggestions perfides des sorcières pour que les sages insinuations de Banquo pussent y laisser quelque impression. Dès ce moment, le malheureux n'eut plus qu'une idée fixe, ceindre plutôt le diadème d'Écosse. Or, il avait pour femme une ambitieuse sans principe, à qui tout moyen semblait bon, pourvu qu'elle et son mari arrivassent aux plus grands honneurs. Aussi, dès qu'elle eut reçu les confidences de la prédiction des sorcières et de son commencement d'exécution, elle se prononça nettement pour l'assassinat du roi. Il n'y avait pas, d'après elle, d'autre alternative si Macbeth voulait voir s'accomplir d'aussi flatteuses destinées. Et plus le général reculait à la pensée de verser le sang royal, plus elle revenait à la charge et le poussait dans la voie du crime. La fatalité voulut que Duncan vint précisément visiter Macbeth. Le roi avait la gracieuse habitude de se rendre ainsi, de temps à autre, chez les principaux gentilshommes de son royaume et de leur témoigner par là sa particulière estime pour leur service. Cette fois, pour honorer tout spécialement le héros de tant de batailles, il arriva, accompagné de ses deux fils, Malcolm et Donald Bain, et d'un nombreux cortège de courtisans et de riches seigneurs. Rien n'était plus charmant que la colline de Dunsinane, sur laquelle s'élevait le manoir de Macbeth. Tout ce qui l'entourait avait un air de fraîcheur et de santé. Aussi les martinets et les hirondelles, friands de toute atmosphère délicate, avaient-ils, à l'envi, bâti leur nid sous les frises et les arcs boutants de l'édifice. Le roi ne dissimula pas sa satisfaction et se montra surtout ravi des attentions dont le combla Lady Macbeth, qui savait, mieux que personne, voiler de sourire la noirceur de ses desseins. Elle possédait le grand art de jouer l'innocence des fleurs, alors qu'elle était en réalité le serpent qui se cachait sous leur corolle. Fatigué de son voyage, Duncan se rendit de bonne heure dans les appartements somptueux où il allait passer la nuit. Selon l'usage, deux de ses valets intimes devaient dormir près de sa couche. Avant de se retirer, il avait témoigné son vif plaisir de l'accueil qu'il avait reçu en faisant des présents à ses principaux officiers et en envoyant à celle qu'il appelait sa très généreuse hôtesse un diamant d'un grand prix. Minuit venait de sonner, l'heure où la moitié de l'univers semble ensevelie dans la mort, l'heure où les rêves pervers assiègent les mortels, où il n'y a dehors que les loups et les meurtriers. Lady Macbeth veillait et méditait l'assassinat du roi. Toutes les délicatesses de son sexe se révoltaient contre un tel acte, mais elle redoutait la pusillanimité de son mari. Elle le savait trop foncièrement bon pour tuer le propos délibéré. Il était ambitieux, sans doute, mais il avait ses scrupules, n'ayant point encore atteint à ce degré de scélératesse où se monte d'ordinaire l'ambition qui ne connaît plus de frein. Elle l'avait bien amené à consentir au meurtre, mais elle doutait de sa résolution. Au dernier moment, sa nature débonnaire s'interposerait. Plus humain qu'elle, il ferait tout manquer. Elle s'arma donc d'une dague et marcha droit au lit de Duncan. Par ses soins, les deux valets de garde avaient été gorgés de vin et dormaient ivres-morts, sans souci de leur responsabilité. Le roi était là, plongé dans un sommeil réparateur. Un moment, elle contempla avidement ce mâle visage, et tout à coup, elle crut y découvrir quelques traits de ressemblance avec son propre père. Elle sentit tout son courage l'abandonner et se sauva près de son mari pour délibérer. Elle le trouva moins décidé que jamais. De puissants arguments se pressaient dans son esprit contre une action si noire. Lui, le sujet, que dis-je, le proche parent et l'hôte du roi. Lui, que les lois de l'hospitalité obligeaient à fermer sa porte au régicide, irait lui-même lui plonger son poignard dans la poitrine? Et quelle victime, grand Dieu, que ce Duncan, si paternel pour ses sujets, si bon pour sa noblesse, si généreux, surtout avec Macbeth. De pareils souvenirs méritaient une protection toute spéciale d'en haut, et leurs sujets étaient doublement tenus à tirer de leur mort une éclatante vengeance. Était-ce donc au général comblé de faveur et que l'estime royale placée si haut dans l'opinion de tous, à souiller d'un crime aussi abominable tant de privilèges et tant d'honneurs? Évidemment, le seigneur de Cawdor inclinait vers la magnanimité et désirait s'arrêter sur le chemin de la honte. Mais Lady Macbeth n'était pas femme à se laisser si facilement détourner d'un mauvais dessein, et goutte à goutte, avec un art satanique, elle versa dans le cœur de son mari un peu de sa triste vaillance. Que lui demandait-elle, après tout? Rien que de très facile. C'était l'affaire d'un instant. Une seule nuit, bien courte, allait suffire à assurer à toute leur nuit et à tous leurs jours les splendeurs de la souveraine puissance. « Quel homme êtes-vous donc ? » insista-t-elle, pour montrer tant d'irrésolution. « Dois-je vous considérer comme un lâche ? Car enfin, vous avez juré de tuer ce Duncan. Eh bien, moi qui suis mère, moi qui sais avec quelle délice je nourrissais mon enfant, je l'aurais sans hésiter arraché moi-même tout souriant de mon sein, si j'avais juré de le faire, et lui aurait écrasé la tête contre la muraille. Ne voyez-vous pas, d'ailleurs, combien il sera facile de rejeter le crime sur les valets ivres qui gardent le roi? Cette sauvage éloquence devait finir par triompher. Macbeth secoua soudain sa torpeur et fit un dernier appel à son antique énergie. Puis, s'armant d'un poignard, il se glissa sans bruit, dans les ténèbres, vers la chambre où reposait Duncan. Mais, chemin faisant, il crut voir, le manche tourné vers lui, un autre poignard dont la lame et la pointe dégouttaient de sang. Éperdu, il voulut s'en saisir, mais sa main ne rencontra que l'espace. L'horrible vision n'était que le produit de sa cervelle en feu, oppressée par l'épouvante du crime à accomplir. Une minute plus tard, il entrait dans la chambre du roi et d'un seul coup de sa dague lui traversait le cœur. À ce moment précis, l'un des valets se prit à rire dans son sommeil. L'autre cria à l'assassin !» ce qui les réveilla tous deux. Puis ils firent une courte prière. « Dieu vous bénisse !» dit l'un. « Amen !» répondit l'autre. Et ils se rendormirent. Macbeth, debout près du cadavre, les écoutait. Lui aussi, il essaya de dire « Amen !» Mais bien qu'il eût alors étrangement besoin d'une bénédiction, le mot se figea dans son gosier et force lui fut de renoncer à le prononcer. Alors il crut entendre une voix qui criait « Réveillez-vous ! Macbeth a tué le sommeil, l'innocent sommeil qui vivifie l'humanité. » Et dans tout le palais retentissait ce cri sinistre « Réveillez-vous ! Glamis a tué le sommeil, et jamais plus Cawdor, jamais plus Macbeth ne connaîtra le sommeil. » Fou de terreur, Macbeth retourna près de sa femme, qui, l'oreille aux écoutes, commençait à croire que le crime n'avait pu se consommer. En le voyant si blême, si horrifié, elle lui reprocha sa couardise, l'envoya laver le sang dont il avait les mains teintes, et, du poignard encore rouge, elle s'en alla souiller les joues des valets pour faire croire à leur culpabilité. Le jour vint, et avec lui, la découverte inévitable du meurtre. Macbeth et sa femme firent de bruyantes démonstrations de désespoir, mais elles ne trompèrent personne. Il y avait bien contre les valets de fortes présomptions, mais Macbeth avait autrement à gagner que ces pauvres diables à la disparition de Duncan, et tous les soupçons tombèrent sur lui. Les deux fils du monarque assassiné s'enfuirent, l'aîné Malcolm à la cour d'Angleterre, le cadet Donald Bain en Irlande. Le trône était donc vacant. Macbeth, à titre de plus proche parent de Duncan, devint roi et ainsi s'accomplit à la lettre la prophétie des trois sœurs. Hélas, elles avaient aussi prédit que Macbeth n'aurait pas ses fils pour successeurs, mais bien ceux de Banquo. Cette pensée suffit à empoisonner l'existence des deux complices couronnés. S'être couvert de sang pour n'aboutir qu'à placer sur le trône la postérité d'un autre, c'eût été, en vérité, jouer le malheur. La mort de Banquo et de son fils fut donc résolue. Elle seule pouvait donner un démenti à la science, jusque-là infaillible, des mystérieuses devineresses. Dans ce but, tous les seigneurs du royaume furent conviés à un grand banquet. L'invitation faite à Banquo et à son fils Fléance fut d'autant plus affectueuse et pressante que le chemin qu'ils devaient suivre pour se rendre de nuit au palais était garni de malandrins aux gages de Macbeth. Banquo tomba, en effet, percé de coups, mais dans la bagarre, Fléance réussit à s'enfuir. Il fut plus tard la souche d'une dynastie qui ne prit fin qu'avec l'Écossais Jacques VI, sur la tête duquel furent réunies les deux couronnes d'Écosse et d'Angleterre. Mais revenons au banquet. Il fut splendide. Merveilleuse de grâce et d'affabilité, la nouvelle reine sut se concilier tous les convives par les mille prévenances dont elle les combla. Macbeth, de son côté, discourut gaiement avec ses hôtes et les remercia avec effusion d'avoir ainsi rassemblé sous son toit tout ce que le royaume avait de plus noble, de plus honorable et de plus illustre. « Je ne regrette, leur dit-il, que l'absence de mon vieil ami Banquo. Mais je ne désespère pas encore de le voir apparaître ce soir. Fasse le ciel que je n'ai qu'à le gronder de son peu d'empressement et non à déplorer quelque fâcheuse mésaventure. » Ces hypocrites paroles vibraient encore dans la salle du festin lorsque le spectre de Banquo assassiné entra et alla s'asseoir sur le siège même que Macbeth se disposait à occuper. À ce stupéfiant spectacle, le meurtrier devint blême de terreur. Lui qui avait affronté la mort sur 20 champs de bataille, lui qui eut, sans sourciller, regardé Satan bien en face, il tremblait là comme un enfant, les yeux rivés sur un fantôme. Les seigneurs, surpris de le voir regarder si fixement un siège qui pour eux était vide, crurent à une distraction passagère. La reine, elle, ne s'y méprit pas. Elle le supplia, à voix basse, de rappeler ses esprits et de ne pas se laisser aller ainsi, en public, à quelque hallucination comme celle du poignard, soi-disant vue par lui alors qu'il allait tuer Duncan. Mais le spectre était toujours là, et Macbeth lui adressait des paroles sans suite, et cependant si compromettante que la reine, craignant que le terrible secret ne lui échappât, mit cette scène étrange sur le compte d'une vieille infirmité de son époux et congédia ses hôtes en toute hâte. À dater de cette nuit mémorable, elle fut en proie chaque nuit, tout comme Macbeth, à d'affreux cauchemars. Le sang de Banquo, d'ailleurs, troublait moins les deux coupables que la fuite de Fléance, de qui sortirait maintenant, sans aucun doute, toute une lignée de rois, au détriment de leur propre postérité. Macbeth, souffrant 1000 morts, résolut de revoir les sorcières et d'apprendre d'elles ce que la suite des temps lui réservait de plus redoutable. Il les chercha dans le champ de bruyère où elle l'avait salué du titre de roi et les trouva dans un antre qui dominait la plaine. Averties par leur science divinatrice de la visite de Macbeth, les trois magiciennes préparaient, lorsqu'il pénétra dans leur caverne, les singuliers enchantements à l'aide desquels elles conjuraient les esprits infernaux de leur révéler l'avenir. Dans un énorme chaudron bouillaient pêle-mêle des crapauds, des chauves-souris, des serpents, un œil de salamandre et une langue de chien, la patte d'un lézard et l'aile d'un hibou, une écaille de dragon, une dent de loup, le ventre d'un vorace requin de mer, une sorcière momifiée, une racine de cigu déterrée de nuit, condition indispensable pour qu'elle fût efficace, un fiel de chèvre et le foie d'un juif, quelques boutures de sésif qui poussent sur les tombes et un doigt arraché à un cadavre d'enfant. Quand tout cela cuisait trop fort, les sorcières y mettaient bon ordre en versant dessus le sang d'un babouin, puis celui d'une truie qui avait dévoré ses petits, et sur la flamme du foyer, elles répandaient la graisse qu'avait suée la potence d'un assassin. « Par qui désires-tu que soient éclaircis tes doutes ?» demandèrent-elles à Macbeth. « Par nous ou par nos maîtres les esprits ?»« Où sont-ils ces esprits ?» répondit hardiment le roi, sans se laisser émouvoir par un spectacle aussi hideux. « Je veux les voir !» Trois esprits répondirent aussitôt à l'appel des pythonisses. Le premier qui s'éleva du chaudron fatidique avait la forme d'une tête de guerrier tout armée. Il appela le roi par son nom et lui recommanda de se défier du seigneur de Fife. « Merci, dit Macbeth, qui, depuis longtemps, jalousait Macduff, duc de Fife. » Le second esprit apparut sous la forme d'un enfant couvert de sang. Lui aussi appela le roi par son nom. « Ne crains rien, Macbeth, lui dit-il. Ris-toi du pouvoir des humains. Il n'est pas un mortel né de la femme qui puisse rien contre toi. Sois sanguinaire, audacieux et résolu. Vis donc, Macduff, s'écria le monarque. Que me servirait en effet de te craindre? Mais non, deux sûretés valent mieux qu'une. Tu mourras. Je pourrai dire enfin à la peur, à face de marbre, qu'elle a menti, et je retrouverai le sommeil en dépit du tonnerre. Ce fut alors le tour du troisième esprit. Un enfant, couronne en tête et un arbuste à la main. « Macbeth, Macbeth, dit l'apparition, moque-toi des conspirateurs. Jamais tu ne seras vaincu tant que la forêt de Birnam ne marchera pas contre Dunsinane et contre toi. À la bonne heure, s'exclama Macbeth. Voilà d'excellents augures. Qui donc ira déraciner les forêts et leur faire quitter la terre qui les nourrit? Je vois maintenant que je vivrai ce que vivent les autres hommes, et que je ne périrai pas de mort violente. Mais il y a quelque chose que je brûle de savoir. Dites-moi si cela est en votre pouvoir, si la postérité de Banquo règnera jamais sur cette terre d'Écosse. » À ces mots, le chaudron magique s'enfonça dans le sol, et au bruit de fantastiques harmonies, 8 fantômes, ressemblant à des rois, défilèrent devant Macbeth. Banquo, qui venait le dernier, tout sanglant, et tenant à la main un miroir où se reflétaient d'autres ombres royales, sourit en montrant à son assassin les futurs rois d'Écosse, descendants de sa victime. Puis les sorcières, tout en dansant aux accords d'une musique quasi divine, ébauchèrent une sorte de salut au monarque stupéfait et s'évanouirent comme se fond la neige sous les feux d'un soleil d'été. De ce moment, Macbeth ne rêva plus que sang et carnage. La première nouvelle qui frappa ses oreilles à son retour de l'antre maudit fut que Macduff, duc de Fife, avait fui en Angleterre pour y rejoindre l'armée que levait Malcolm, fils aîné de Duncan, dans le but de reconquérir le trône de ses pères. Transporté de rage, Macbeth marcha sur le château de Macduff, passa au fil de l'épée la femme et les enfants du traître, et fit massacrer quiconque lui tenait, de près ou de loin, par le lien du sang. Il n'en fallait pas davantage pour lui aliéner les plus influents de ses vassaux. Tous ceux qui le purent s'allèrent ranger sous les drapeaux de Malcolm et de Macduff, qui déjà s'avançaient avec des forces formidables. Le reste, que la crainte des fureurs royales contraignait à demeurer neutre, souhaitait vivement que le tyran fût vaincu. Alors commença pour Macbeth une existence intolérable. C'est à peine s'il put recruter les troupes qui lui étaient nécessaires. Il se sentait haï, méprisé, soupçonné par tous, et il se prenait à envier le profond sommeil de Duncan, que son poignard avait délivré à tout jamais des empoisonneurs et des assassins, des trahisons domestiques et des invasions de l'étranger. Pour comble d'infortune, sa femme, sa complice, la seule créature près de lui, de qui il lui arrivait parfois de se reposer, des rêves affreux dont ses nuits étaient torturées, plia sous le fait de ses remords et de l'exécration populaire, et mourut. La croyance commune fut qu'elle s'était suicidée. Seul désormais, face à face avec ses crimes, sans une âme qui sympathisât avec lui, sans un confident à qui parler des forfaits qu'il méditait encore, il en vint à désirer le trépas. Cependant, la rapide approche de Malcolm et de son armée réveilla sa vieille bravoure, et il résolut, pour parler son langage, de mourir cuirasse au dos. Les pythonisses ne lui avaient-elles pas fait de rassurantes promesses? Ne savait-il pas, de par les esprits, que nul homme, né de la femme, ne prévaudrait contre lui, et qu'il resterait invincible tant que le bois de Birnam ne viendrait pas à Dunsinane? Promesse assez creuse, dira-t-on. Qu'importe, il y croyait, et c'en était assez pour le déterminer à la résistance. Il s'enferma donc dans son castel, d'où il pouvait braver toutes les longueurs d'un siège, et là attendit stoïquement l'arrivée de Malcolm. Un jour, accouru en toute hâte, pâle comme la mort et tremblant de tous ses membres, un messager dont la frayeur semblait avoir paralysé la langue. « Parleras-tu, chien d'esclave ? » lui cria Macbeth. « Seigneur, balbutia l'homme, j'étais de garde sur la colline quand, en regardant vers Birnam, j'ai vu la forêt se mouvoir. « Si tu mens, hurla le roi, hors de lui, je te ferai pendre à l'arbre le plus proche jusqu'à ce que la faim te tue. Mais si par malheur tu dis vrai, pends-moi toi-même, je te le permets. » La résolution du monarque faiblissait visiblement, mais cette défaillance fut de courte durée. Ces esprits maudits m'auraient-ils trompé, se disait-il, à l'aide de misérables équivoques? Ah, le bois de Birnam vient à Dunsinane. Eh bien, j'irai, moi, à sa rencontre. Nul moyen de fuir d'ici. Nul moyen d'y demeurer. J'en ai assez, d'ailleurs, de la lumière et de la vie. Finissons-en, puisqu'il le faut. Et sautant en selle, il fit sonner la charge et marcha contre les assiégeants qui déjà avaient atteint le manoir. Le messager ne s'était trompé qu'en apparence. C'était bien une forêt, mais une forêt d'un nouveau genre qu'il avait vu s'avancer vers le château. En habile général, Malcolm, au moment de traverser le bois de Birnam, avait ordonné que chacun de ses soldats déracinât un arbuste et le portât devant soi pour dissimuler le nombre réel de ses troupes. De loin, cette tactique avait donné à ses gardiens en marche l'aspect fantastique qui avait jeté l'épouvante dans l'âme superstitieuse du messager. L'esprit n'avait donc pas eu tort, seulement, comme tous ses pareils, il avait parlé en parabole. Le coup était rude pour l'enfantine crédulité de Macbeth. Mais sa rencontre avec l'ennemi n'en fut pas moins épique. Bien que faiblement soutenu par de prétendus partisans qui, dans leur cœur, le haïssaient et faisaient des vœux pour le triomphe de Malcolm, il se battit avec la rage du désespoir et tailla en pièces tout ce qui tenta de s'opposer à sa valeur jusqu'à ce qu'il parvint au lieu où se trouvait Macduff. À la vue de l'homme que les esprits lui avaient conseillé d'éviter à tout prix, il voulut s'esquiver, mais plus prompt que l'éclair, Macduff, qui le cherchait depuis le commencement de la bataille, lui coupa soudainement la retraite. L'issue d'un pareil duel ne pouvait être que mortelle. Macduff n'avait pas d'injure assez cruelle à jeter à la face du meurtrier de sa femme et de ses enfants. Quant à Macbeth, qui croyait avoir assez répandu déjà le sang de cette famille, il eût voulu éviter le combat, mais Macduff s'acharnait après lui, le traitant de tyran, d'assassin, de lâche et de chien d'enfer. « Arrête !» lui cria enfin Macbeth, qui se rappela les paroles du deuxième esprit. « Tu perds ta peine, et autant vaudrait pour toi tenter de poignarder le vide. Ma vie est enchantée, car nul homme né de la femme ne peut rien contre moi. » « Foin de tes enchantements !» riposta le guerrier. « L'esprit menteur dont tu t'es fait l'esclave, t'aurais dû dire que Macduff ne naquit pas de la femme à la façon des autres mortels, et qu'il fut, avant le temps, arraché aux entrailles de sa mère. « Maudite soit la langue qui me révèle une pareille fourberie !» exclama l'infortuné monarque, grelottant de terreur et, cette fois, bien désillusionné. Périsse à jamais la confiance des humains dans les équivoques grossières des pythonisses et des jongleurs infernaux. Arrière, traître, je ne me battrai pas contre toi. Tu as raison, dit Macduff, avec un méprisant sourire. Vie pour que nous te montrions au peuple comment montrent les monstres, et au-dessus de ta tête, nous ferons peindre ces mots. Par ici, venez voir le tyran. Jamais, rugit Macbeth, à qui le désespoir rendit tout son courage. Je ne vivrai pas pour baiser la terre aux pieds de Malcolm, sous l'avalanche de malédictions d'une ignoble populace. Le bois de Birnam est venu à Dunsinane, et toi, tu n'es pas né de la femme comme les autres hommes. Eh bien, soit, je n'en irai pas moins jusqu'au bout. Et il se rua sur Macduff. Tous deux se battirent comme des lions, mais finalement Macduff resta vainqueur et porta en présent la tête du vaincu au jeune et légitime héritier de Duncan, qui, rentré en possession du trône, dont l'avait si longtemps privé un usurpateur, fut acclamé roi par la noblesse et par le peuple.